Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Napoléon d'André Castelot est une biographie historique ample et narrative consacrée à la trajectoire de Napoléon Bonaparte, de la Corse de son enfance jusqu'aux derniers échos de son destin à Sainte-Hélène et au retour des cendres aux Invalides. » Publié dans une édition récente chez Perrin, l'ouvrage s'inscrit dans la tradition du grand récit historique accessible à un large public. Castelot y combine un travail document nourri d'archives, de mémoires et de correspondances avec un sens très affirmé de la scène et du détail concret. Le but est pas seulement de rappeler les grandes étapes de la vie de Napoléon, mais de faire sentir le contexte politique, militaire et humain dans lequel elles prennent place. Le livre cherche ainsi à rendre intelligible un personnage immense, sans le réduire à une suite de dates ou de batailles. Je vais vous présenter les points clés de ces livres. Premièrement, une biographie construite comme un récit historique continu. Le premier intérêt du livre tient à sa forme. André Castelot ne propose pas une étude sèche ou strictement universitaire, mais un récit suivi qui donne à la vie de Napoléon une continuité presque romanesque, tout en restant fondé sur une documentation abondante. Cette méthode permet de suivre l'ascension du jeune Bonaparte, puis la formation de l'empereur, sans rupture artificielle, entre les épisodes privés et les épisodes politiques. Le lecteur avance ainsi dans l'histoire comme dans une fresque, avec une forte cohérence narrative. Ce choix explique en partie la popularité durable de l'ouvrage, il rend une matière très vaste lisible sans la simplifier à l'excès. Castelot privilégie la mise en situation, les enchaînements concrets et la restitution des ambiances, ce qui donne du relief aux événements. Le livre se distingue donc par sa capacité à transformer une biographie monumentale en lecture fluide, où le savoir historique est porté par l'art du récit plutôt que par un appareil savant lourd. Deuxièmement, l'usage massif des archives pour restituer Napoléon au plus près. L'un des traits les plus marquants de cette biographie est l'exploitation d'une grande quantité de sources, notamment des archives, des mémoires et des correspondances. Castelot s'appuie sur ces matériaux pour faire entendre plusieurs voix autour de Napoléon et pour éviter une narration purement abstraite. Cette approche donne au portrait une densité particulière, car le personnage apparaît à travers ses propres paroles, les témoignages de ses proches et les regards de ses contemporains. Le résultat n'est pas une neutralité froide, mais une reconstitution vivante qui cherche à rapprocher le lecteur du climat réel des décisions et des événements. Cette méthode renforce aussi la sensation de précision documentaire. Elle permet de suivre les relations personnelles, les tensions de cour, les épisodes militaires et les moments de doute avec une grande richesse de détails. En même temps, le livre montre que la biographie historique peut être à la fois érudite et lisible, sans renoncer à la complexité des sources ni à la diversité des points de vue. Troisièmement, du Corse de 1769 au sacre impérial puis à l'exil final, le livre couvre l'ensemble de la trajectoire napoléonienne, mais il insiste particulièrement sur la montée en puissance du futur empereur. Les premiers tomes suivent Bonaparte depuis sa naissance en Corse jusqu'au sacre de 1804, moment symbolique où son destin bascule définitivement. Cette progression est essentielle, car elle permet de voir comment un officier issu d'une île récemment rattachée à la France devient une figure centrale de l'État et de l'Europe. La suite du récit poursuit l'épopée impériale jusqu'à l'effondrement, à l'exil de Sainte-Hélène, puis à la mémoire posthume avec le retour des cendres en 1840. Cette amplitude chronologique donne au livre sa stature, il ne se limite pas à la période des victoires, mais embrasse aussi la chute et la postérité. Castelot propose ainsi une lecture complète du destin napoléonien, où la gloire, l'exercice du pouvoir, la défaite et la légende forment un tout indissociable. Le lecteur comprend mieux comment la grandeur de Napoléon s'est construite et comment elle a continué à agir après sa mort. Quatrièmement, les campagnes. La stratégie et le pouvoir vu par la scène plutôt que par l'abstraction, Castelot accorde une place majeure aux guerres révolutionnaires et napoléoniennes, mais il ne les traite pas comme un simple catalogue de batailles. Son intérêt va à la manière dont les lieux, les déplacements, les acteurs et les décisions donnent sens aux événements. Les campagnes d'Italie, d'Égypte, de Austerlitz, de Russie ou de Waterloo sont présentées comme des moments où se révèlent à la fois le génie stratégique, l'ambition politique et la fragilité de l'Empire. Cette écriture met en avant la dynamique du pouvoir. Napoléon n'y apparaît pas seulement comme un chef militaire, mais comme un homme qui fait converger armée, administration, prestige et représentation de soi. Le lecteur retire de ce traitement une compréhension plus concrète des mécanismes de domination impériale. Les batailles ne sont pas isolées du reste de la biographie. Elles sont replacées dans une logique de construction puis de défense d'un ordre politique. C'est ce lien entre action militaire et gouvernement qui donne à l'ouvrage sa profondeur historique. En dernier lieu, un portrait humain de Napoléon entre grandeur, intimité et légende, au-delà de l'homme d'État et du capitaine, Castelot cherche à montrer un Napoléon humain, parfois contradictoire, traversé par les relations affectives, les ambitions personnelles et les contraintes du pouvoir, le livre accorde de l'attention à la vie privée, aux liens avec Joséphine, aux relations familiales et à la manière dont l'entourage influe sur les choix politiques. Cette dimension est importante, car elle évite de réduire Napoléon à un symbole abstrait de puissance. Le lecteur découvre au contraire un personnage fait de volonté, de calcul, d'impatience, mais aussi de sensibilité et de mise en scène de soi. L'ouvrage montre également comment la légende napoléonienne est constituée à travers les témoignages, les récits postérieurs et la fascination durable qu'il continue d'exercer. Castelot ne prétend pas dissoudre le mythe, il l'éclaire en le replaçant dans des faits précis et des contextes vérifiables. C'est et cette tension entre l'homme réel et la figure historique qui rend la lecture particulièrement riche. En conclusion, ce livre s'adresse d'abord à ceux qui veulent découvrir Napoléon dans une forme ample, vivante et documentée, sans se perdre immédiatement dans les ouvrages plus spécialisés. Il convient aussi aux lecteurs déjà familiers du sujet qui cherchent une synthèse narrative capable de relier les épisodes militaires, les enjeux politiques et la vie intime du personnage. Son principal bénéfice intellectuel est de donner une vision d'ensemble. On y comprend à la fois la construction du pouvoir napoléonien, la logique des campagnes, l'importance des réseaux de témoignages et la persistance de la légende après la chute. Par rapport à d'autres biographies, l'originalité du livre tient à son style de récit historique, très incarné, qui fait sentir les lieux et les acteurs autant qu'il informe. Là où certaines biographies privilégient l'analyse froide ou l'érudition académique, Castelot propose une médiation plus directe entre le lecteur et l'époque. C'est précisément ce mélange de rigueur documentaire, de narration soutenue et de sens du détail qui explique la place durable de cette biographie dans l'édition historique française. Si vous souhaitez soutenir André Castelot, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt !